Pauline Pucciano, Titania 2.0. Le lendemain, quand il se présenta à la tour des Innocents à l'heure du rendez-vous, Jean se sentait plus anxieux et plus noué que s'il s'était agi d'une rupture. Mais lorsqu'elle ouvrit la porte, il arriva ce qu'elle faisait arriver à chaque fois. La réalité extérieure se dissolut, et avec elle tous les sentiments étrangers au désir. Dans cet orage violent qui lavait le monde de toutes ses scories inutiles, il ne restait plus qu'elle. Ils en étaient à ce point de l'amour où la passion physique, comme une lumière vive, absorbe tout le reste, et ce ne fut qu'après avoir fait l'amour compulsivement, avec une maladive intensité, qu'ils rompirent le silence. « C'est drôle, dit-elle, d'avoir le corps si heureux et d'être en même temps si triste. » « Post coitum animal triste, » cita Jean machinalement. « D'être si vivante et si près de ne l'être plus, » ajouta Titania. Jean avait décidé de ne pas lui poser de questions à ce sujet. Il s'était même promis de ne pas la harceler, d'accepter tout ce qu'elle voudrait lui donner sans protester, une heure, une année, la parole ou le silence. « Comment était-ce, les expériences de mort 3D ?» demanda-t-il. Elle abaissa et releva ses paupières nacrées, lentement, et sourit. « La sensation de la mort n'est pas spectaculaire. C'est une sensation familière, banale, comme de s'endormir, de tomber ou de faire un malaise. Cette sensation nous est déjà arrivée plein de fois. Tu ne crains pas la mort, alors ? Je n'ai pas dit cela. Je suis triste de devoir arrêter de vivre. Parce que tu es heureuse ? Oui. Elle lui adressa un regard clair. C'était un aveu limpide qui coulait de ses yeux comme des larmes transparentes. Je suis heureuse de t'avoir rencontré, Jean, et d'avoir quelque chose à regretter. Mais je n'aurais pas pu te rencontrer si ma vie avait été différente. Tu ne te serais jamais retournée sur la femme que j'aurais été. Ne suis-je pas le poète ? Peut-être, mais c'est moi qui ai aimé ta beauté intérieure, et pas l'inverse. Jean sourit, vaincu. Titania se leva et traversa l'appartement dans la lumière descendante pour mettre de la musique. Il s'agissait d'une voix de haute contre, d'une force et d'une pureté sublime, et Jean ne put s'empêcher de songer à Mito, avant ses 13 ans, chantant ce genre de morceaux pour un milliardaire au désir malade. La voix était progressivement accompagnée par différents instruments acoustiques et synthétiques, qui battaient un rythme répétitif de plus en plus rapide, comme dans un boléro de l'ancien temps. La voix d'ange envahissait l'appartement, son lent crépuscule, et jusqu'à leur corps assouvi. Jean se sentait flotter et presque disparaître dans la perfection de cet instant. Mais il reprit conscience en voyant des larmes perler des paupières closes de Titania. « Titania, » murmura-t-il caressant. « Je vais devoir partir pour un très long voyage, » lui dit-elle. « Il va falloir nous quitter. C'est un engagement que j'ai pris pour mon travail. Je ne peux pas m'y dérober. » « Je sais, » murmura-t-il encore. « Tu sais ?» reprit-elle vivement. La musique était réglée pour s'abaisser automatiquement au son des voix. L'ange se fit soudain plus lointain, comme si son vol les avait effleurés et que sa course l'emmenait maintenant ailleurs. « Je sais, oui, » dit Jean. « Je suis allée chez Mordoré, j'ai compris. » Titania se leva précipitamment et se mit à faire les 100 pas. Elle ne pleurait plus et paraissait en colère. « Excuse-moi, » dit-il. « Je ne voulais pas faire intrusion, je voulais... » Mais la colère était passée, elle paraissait maintenant affolée, terrifiée, comme une créature volante piégée dans une boîte. « Laisse-moi, » finit-elle par articuler. « Laisse-moi, laisse-moi !» Jean voulut se redresser et s'approcher d'elle, mais elle sortit littéralement les griffes. Des lames effilées et redoutables venaient de sortir de sous ses ongles avec un cliquetis métallique. Il la considéra un instant, interdit. Elle était nue, et d'une fragilité si troublante malgré ses lames rétractiles, qu'il n'osa pas la brusquer. Il récupéra ses affaires, maladroitement, en faisant tomber des objets à plusieurs reprises, tandis qu'elle le fixait immobile. « Je t'appellerai ce soir, » balbutia Jean, « je viendrai demain, je ne veux pas qu'on se quitte comme ça. » Elle ne répondait rien, et il continuait sur le même ton. Quand il fut prêt et sur le point de partir, elle rentra les griffes et lui dit Comme ça ou autrement, Jean, qu'est-ce que ça change? Nous savions tous les deux que c'était la dernière fois. » Jean la regarda encore. « La dernière fois ? » répéta-t-il. « Non, je n'en savais rien, je croyais que... » Mais les mots s'étranglaient dans sa gorge, parce qu'il la voyait devant lui, et que son corps ne lui inspirait plus seulement du désir et de l'admiration, mais également une profonde tendresse. « Me promets-tu de me revoir, s'il te plaît, cette nuit, demain ?»« Oui, » articula-t-elle, « si tu veux. Appelle-moi tout à l'heure. » Il ne se rappela jamais le dernier regard qu'elle lui adressa, parce qu'il était trop occupé à retenir son émotion. Et la rue l'aspira, l'éloigna d'elle avec une force invincible. Le fragile appartement de verre, où la musique et l'amour avaient résonné, lui paraissait maintenant aussi révolu, aussi inaccessible qu'un instant passé. Il ne put s'empêcher de l'appeler presque tout de suite, tandis que ses jambes fébriles le portaient malgré lui. Et elle répondit, presque tout de suite, très calme. « Tu ne vas pas les laisser faire, Titania. Tu peux fuir. Tu peux refaire ta vie ailleurs, avec moi. Je t'aiderai, Titania, je te cacherai. Nous détruirons toute trace de toi, et tu resteras avec moi. » Jean sanglotait au téléphone, et il ne se rendait pas compte que sa voix entrecoupée était difficilement compréhensible. « Raconte-moi, Jean, comment tu me sauveras. Je connais un hors-réseau. Il nous aidera. Tu disparaîtras comme lui, tu détruiras ton Hervé. Tu te feras porter des CD, nous changerons de ville, personne ne te retrouvera. » Titania lui posait des questions enfantines et il y répondait avec toute la détermination aveugle de sa douleur. Leur conversation dura de longues minutes, jusqu'à ce qu'il arrête de pleurer et qu'il recouvre tout de leur calme. Il était devant chez lui. « Quand est-ce que tu viens me retrouver ? » demanda-t-il. « Et où ? » ?»« J'ai besoin de temps pour régler mes affaires et pour prendre ce dont j'ai besoin. Je te rejoindrai demain, à midi pile. Tu t'occuperas de moi ? » ?»« Oui. » Et tu ne m'abandonneras jamais ? Non. Où dois-je te retrouver ? Là où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Tu seras là, Titania. Jure-moi que tu seras là. Je te le jure, souffla-t-elle. Je t'aime, Jean. Les mots avaient traversé l'espace et pénétré dans son âme comme aucune parole, aucun poème jamais ne l'avait fait. Et ce fut dans cet état de fièvre qu'il passa la nuit la plus blanche de toute son existence. Des images morcelées de Titania lui revenaient sans cesse, ainsi que son parfum, le timbre de sa voix. Le bonheur d'être aimé, l'espoir de la posséder pour toujours lui gonflait la poitrine et l'emplissait de désir. Mais cette symphonie de sentiments était traversée d'une obscure dissonance qui le tenait éveillé et inquiet. Il l'appela au milieu de la nuit, mais elle ne lui répondit pas. Au matin, il se prépara comme à l'accoutumée, et décida d'aller au travail pour régler quelques affaires avant un départ éventuel. Et la matinée fut lente et vide. Enfin, le cœur battant, il se rendit avec beaucoup d'avance à la fontaine serpentine et tenta de calmer son angoisse exaltée en regardant la foule. L'horloge de son Hervé paraissait le narguer, et il fut prêt à jurer à un moment que le temps reculait plutôt que d'avancer. Mais midi sonna. Et alors qu'il observait la foule de plus en plus lointaine pour dénicher la silhouette tant aimée, il fut interpellé par une jeune femme en uniforme de livraison, à quelques centimètres de lui. « Libère-t-on Jean Corville ?»« Oui, » dit-il sans la regarder vraiment, les yeux toujours fixés vers le lointain. « Je dois procéder à une vérification de votre identité avant de vous remettre un colis. »« Un colis » répéta-t-il en fronçant les sourcils et en tendant machinalement son Hervé pour le scan. « Ici, dans la rue ?» « Oui, à la fontaine serpentine, à midi pile. N'aviez-vous pas rendez-vous ?» Quelque chose s'effondra à l'intérieur de Jean, ne laissant qu'une enveloppe vide autour d'un chaos total. La livreuse ne parut pas remarquer son trouble et elle poursuivit sa tâche sans ciller. Le colis était une grande valise de marque, blanche et nacrée. Il ne voulait pas l'ouvrir, ne voulait pas la recevoir et restait là, béant, attirant malgré lui les regards de quelques personnes alentour. Et puis le Hervé sonna, et un absurde espoir fit de nouveau arriver le sang jusqu'à son cœur. Mais ce n'était pas Titania, c'était les tourneaux. « Corville, » disait la voix embarrassée. « Quoi ?»« L'enquête est terminée, mon vieux, je ne vous embêterai plus. »« Qu'êtes-vous en train de me dire ?»« Votre ami a honoré son contrat. À l'instant. Je viens de recevoir un coup de fil. »« Honoré son contrat ?» répéta Jean, hagard. « À midi pile, dans les locaux de Mordoré. Elle a demandé qu'on vous prévienne et qu'on vous dise... Attendez, je l'ai noté quelque part. Qu'on vous dise qu'elle avait choisi de s'en aller pendant la lecture de son 851e souvenir. Jean n'avait pas raccroché, mais il était incapable de parler. L'univers venait de s'effondrer, de se désaxer, de perdre son centre. Pourquoi était-il encore vivant? Et pourquoi cette foule était-elle si indifférente? Corville? Corville? Vous penserez à me rapporter le crypteur, hein? Mais rien ne presse, bien sûr. Toutes mes condoléances, vieux. Jean raccrocha machinalement et resta longtemps là, les mains crispées sur la valise nacrée, incapable de faire un geste, avant de parvenir enfin à se réfugier dans son appartement. La vieille Xia tenait entre ses doigts tremblants un diamant de taille moyenne, monté en pendentif, qui scintillait de manière presque surnaturelle au milieu de l'éclairage blafard de la rue. Mito, en face d'elle, avalait un bol de nouilles avec une expression mutine. « Ça vous paiera la retraite à toi et au vieux chaud. Et peut-être quelques soins aussi. Il n'a pas l'air bien en forme depuis un moment. »« Où est-ce que tu as eu ça ?»« C'est Jean qui me l'a donné. »« Jean ? Mais il n'est pas riche. » »« Je ne sais pas comment il a eu tout ça. Et je vais te dire, s'il n'a pas envie de m'en parler, je ne vais pas le forcer. » Je l'ai vu en début d'après-midi remonter chez lui avec une grande valise, le genre de bagage chic et cher qui se remarque tout de suite dans un aéroport. Et puis quelques heures plus tard, il est descendu avec sa valise, et avec une sale gueule. Et il m'a appelé pour me la donner, comme ça, sans explication. Et les yeux de la vieille femme s'allumèrent de curiosité. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Un trésor incroyable. Mito faisait durer le suspense. Je n'en croyais pas mes yeux. C'était non seulement le passeport pour revenir dans le réseau, pour avoir des soins, mais aussi pour faire ce que je voulais de ma vie. La vieille femme serrait son diamant dans sa main, jalousement, et se mit à rire. « Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, Mito ?»« Je vais devenir chanteur. Je serai une grande star, » dit Mito très sérieusement et très calmement. « Tu me signeras un autographe ?» Mito riait comme un enfant. J'ai enlevé tout ce qu'il y avait dedans, les robes Chanel Dior, les bijoux, les objets d'art. J'ai tout mis dans des sacs de sport et je les ai laissés dans différentes consignes. J'avais trop peur de me faire dépouiller. « Et tu vas dormir dehors ce soir ?» demanda Xia, incrédule. « J'ai pris une petite chambre d'hôtel, encore assez minable. Il faut y aller progressivement. Et surtout bien réfléchir. »« À quoi ?»« Je ne dois pas gâcher cette chance, Xia. C'est la chance, l'unique chance de ma vie. Si je la laisse passer, je pourrirai dans la rue. Ça mérite réflexion. »« Et Jean, pourquoi t'a-t-il donné tout ça ?»« Il est ravagé, le pauvre. Il n'a rien voulu dire. » Je ne sais pas dans quoi il a trempé. Peut-être que c'est par mesure de sécurité. Peut-être qu'il a tué une femme riche. Peut-être qu'il cherche à éviter les ennuis. Lui ? Tuer une femme ? Je ne crois pas, c'est un poète. Un poète, dis-tu ? Mito caressait une idée dans sa tête et ses yeux brillaient. Tu crois qu'il pourra m'écrire des chansons ? Xia haussa les épaules. Un client arrivait et elle se détourna de son pas traînant de vieille femme fatiguée. La main droite crispée à en blanchir les jointures sur le morceau d'espoir qu'elle renfermait. En vrac, dans une boîte blanche vernie, s'étalait un pêle-mêle de puces 3D. Il s'agissait de toutes les puces d'immersion que Titania avait achetées. Jean y plongea la main et les laissa déborder et couler, lisant des fragments de titres phosphorescents. Abu Simbel, Niagara Falls, le Grand 8 de Las Vegas, le lagon polynésien, toutes ces pépites de sensations enfermées dans ce coffret de poupées. Il avait envie de commencer par ses puces, de toutes les lire une par une jusqu'à la nausée, pour communier encore avec elle, pour mettre ses pas dans les siens et ressentir ces sensations qu'elle avait choisies et éprouvées, qu'elle avait voulu lui faire connaître. Mais il ne pouvait fixer son attention sur elle, car son regard était attiré par les quatre autres coffrets ouverts sur son bureau, où il y avait, disposé en un ordre parfait, tous les souvenirs de Titania. Tous sauf un. 850 minutes éparses, qu'elle avait choisi de conserver, de se remémorer, d'immortaliser. Ils étaient là, numérotés, et Jean savait que chacun d'eux recélait une vague d'émotions qui le relierait à elle, et qui l'emporterait ensuite encore plus loin dans son absence. C'était comme un vin empoisonné, une drogue puissante qui vous attirait avec toutes les voix des sirènes. Que se passerait-il s'il cédait à la tentation? Ou, plus exactement, qu'allait-il se passer quand il céderait à la tentation? Car cet héritage mémoriel était impossible à rejeter ou à détruire. On ne pouvait se débarrasser ainsi de 850 minutes vécues par une personne aimée. C'était le gouffre entrouvert qui vous attirait magnétiquement vers les profondeurs. La boîte de Pandore qu'on ne pouvait pas ne pas ouvrir. Enfin, il y avait ce qu'il considérait comme le cœur lumineux et frémissant, encore, de son absente, le RV recouvert de nacre et d'écailles, qui modulait parfois des notes graves de flûte de Pan. Il faudrait sans doute des jours entiers à Jean pour en explorer le contenu, mais il en avait fait le tour, comme on peut survoler un paysage, avant de pénétrer plus avant dans ces cavernes mystérieuses. Il y avait là une demi-douzaine de rémanences différentes de Titania, avec lesquelles il pourrait converser, échanger des impressions, des souvenirs. Une demi-douzaine qui portait les icônes de ses différents mois. La dernière en date était celle qu'il connaissait, mais les autres icônes, qui portaient des noms différents, des couleurs, des âges, des traits, des tatouages, des implants différents, conservaient malgré tout une incroyable parenté avec celle qu'il avait aimée. Comme deux œuvres d'art d'un grand artiste portant la marque inimitable et indéfinissable de leur créateur, les divers avatars de Titania se ressemblaient comme des sœurs et produisaient une impression presque semblable qui devait être la quintessence de sa personnalité. Elles étaient toutes belles et paraissaient les multiples visages d'une déesse aimant à se réincarner sans cesse. Ces six visages l'emplissaient de terreur et de trouble, et il savait qu'il y avait pour chacune de ces incarnations des centaines de photos, de vidéos, de souvenirs. Il pourrait connaître chacune successivement pour l'appréhender enfin tout entière. Sans réfléchir, dans un état de désarroi profond, il activa sur son propre Hervé la rémanence de sa mère. Il avait besoin d'elle, de sa sagesse perdue qu'il avait si longtemps guidée dans ce monde piégé. « Maman, murmura-t-il, je suis là, Jean. Pourquoi as-tu accepté de créer une rémanence de toi-même ? Je l'ai fait pour rester auprès de toi, Jean, pour que mes pensées, mes convictions ne disparaissent jamais. Mais tu as toujours été contre ces choses-là. C'est vrai, mais j'étais aussi contre ma propre mort, dit-elle en riant. Jean leva les yeux. Le visage de la rémanence était un peu flou, mais extraordinairement expressif, comme si sa mère lui parlait depuis l'espace. Combien de temps as-tu passé pour créer la rémanence ? 3 mois de travail quotidien. 3 mois de réponse à des questions posées par le logiciel ? Oui, en quelque sorte. Jean laissa passer un silence, ses yeux courant machinalement sur tous les objets de Titania. Comment peut-on faire son deuil, maman ? Comment ? Le deuil est le travail du temps et non le tien. Tu dois boire le calice jusqu'à la lie. « Boire le calice, » répéta-t-il. « Boire le calice, jusqu'à la lie, » répéta la rémanence. Cette expression étrangement lui parut pleine de sens. Il regarda à nouveau les puces d'immersion 3D, les coffrets aux souvenirs, les icônes des 6 rémanences. « Le deuil est-il un chemin que l'on parcourt ? » demanda-t-il. « Le deuil est un labyrinthe dont on ne cherche pas l'issue. » Jean fut frappé à nouveau par le sens de cette phrase. « Pourquoi tes paroles me bouleversent-elles autant alors que tu n'existes plus, maman ?» La rémanence sourit, ou du moins c'est ce qu'il sembla à Jean. « Nous n'avons jamais pu avoir cette conversation de mon vivant, » dit-elle. Jean essuya les larmes qui coulaient involontairement de ses yeux. Il respira plusieurs grandes bouffées d'air et se mordit les lèvres. « La femme que j'aime s'est transformée en objet, » dit-il. « Que veux-tu dire ? » Elle a fait de son propre corps son moyen et sa fin, une marchandise ultime, un talisman, une œuvre d'art. Elle est morte, comprends-tu ? Mais elle me laisse toute son œuvre, tout entière. Elle devait t'aimer beaucoup pour te léguer son œuvre. Cette œuvre est un labyrinthe, maman, un labyrinthe où je m'apprête à entrer. Pour faire ton deuil ? Je ne sais pas, je ne cherche pas d'issue. Je veux boire le calice jusqu'à la lie. La rémanence, ce qui était assez rare, ne trouva rien à répondre, et il la désactiva. Un poème lui trottait dans la tête depuis tout à l'heure. Les mots se bousculaient désordonnés, comme s'il cherchait à sortir de lui. Il fallait qu'il les écrive, vite, pour que sa tête soit à nouveau vide. « Morte tu es, fille de cendre et de ravage, et j'effeuille un à un tes multiples visages, tes corps superposés, qui me comptent l'histoire sans sens de tes métamorphoses illusoires. Je m'immerge sans fin dans l'univers statique où je peux toujours voir tes spectres numériques s'émouvoir et bouger, me désirer encore, franchissant à l'envers les portes de ta mort. Je t'ai aimé, fille de neige et d'artifice, reine de chair et de diamant, je t'ai aimé, chef-d'œuvre de rêve et de sang, beauté factice. Que reste de ton corps étreint et disloqué? L'explosion de tes organes éparpillés, et dans mon cœur saignant, ta blanche cicatrice. Lorsque les mots eurent trouvé leur place hors de lui, Jean prit une longue douche massante sous laquelle il versa des larmes invisibles. Puis, rasséréné, il avala une dose de nutriments et se saisit de son casque d'immersion 3D. On pouvait entrer dans un labyrinthe par n'importe quelle porte, mais une idée s'imposa à lui, franchissant à l'envers les portes de ta mort. Et il commença son long retour en arrière par le souvenir numéro 850.